Dans 3 jours, c'est la Hiloula de Baba Salé. J'ai demandé à mon cher ami Yaakov Amsalem, dont le père était le beau-frère de Baba Salé, et était le Chavruta de Baba Meir, le fils de Baba Salé. Ils ont étudié en Chavruta. Je vais nous raconter un peu ce qu'il a connu de la famille, ce qu'il a entendu. Chavrut, bienvenue.
Bon, je vais essayer. Merci beaucoup d'avoir notre cher ami Rosh Yeshiva de m'avoir invité. Alors, ce que je voudrais, avec l'aide d'Hachem, Bechem Hachem, Narsim Natsilia, ce que je voudrais dire dans la personnalité de Sidna Baba Salé, c'est que, il y a en vérité, si on veut partager sa vie, il y a deux parties importantes, tout à l'heure même la troisième. Première partie, c'est la Avodat Hachem. Tout d'abord, l'environnement de Sidna Baba Salé. Si vous avez des questions, je préfère. Je veux dire, qu'on me pose des questions, là où c'est pas clair. Vous savez tout d'abord qui était Sidna Baba Salé. Moi, je préfère dire Sidna, ça veut dire notre maître. J'explique en même temps pourquoi on l'appelle Baba Salé, parce que tous les Israël, tous les en Maroc, dans cette région, tous ceux qui s'appellent Israël, on les appelle Salé. Salé.
Un diminutif.
Un diminutif. Et quand c'est un grand personnage, un rave ou quoi, par respect, on l'appelle Baba Salé. Il y en a qui ont voulu expliquer autrement, je ne suis pas tellement pour. La vraie raison, c'est celle-là. Donc, l'environnement de Sidna Baba Salé, c'est le petit-fils de Rabbi Yaakov Abou Hatzira. Tout le monde connaît bien sûr qui est Rabbi Yaakov Abou Hatzira, sa grandeur, sa tzidkout, sa prichout, sa hassidout. Quand on a comme ça un grand-père et son fils, ça veut dire le père. Alors, on va mettre un peu d'ordre, si vous voulez. Il y a donc Rabbi Yaakov Hatzira, qui est le père. Je ne remonte pas un peu plus haut, parce que je crois qu'on va passer tout le temps. Et donc, il avait 4 fils. Le premier, Rabbi Mas'oud. Le deuxième, Rabbi Aaron. Le troisième, Rabbi Avraham, qui est d'ailleurs enterré à Tibériade, et le quatrième, c'est Rabbi Yitzhak, dont on parle beaucoup, qui est au fond du Maroc, les gens vont le pèleriner, etc. Donc Rabbi Mas'oud, c'est le fils aîné de Rabbi Yaakov Abou Hatzira, et Baba Salé, donc, c'est son fils. Avant, Baba Salé avait un frère, on va en parler, qu'on appelle dans la famille Ateret Roshenu, c'est-à-dire la gloire de notre tête. Ça veut dire quoi, la gloire de notre tête? Ça veut dire, il est tellement tzaddik, hassid, etc. Le fils, hein, je parle maintenant du frère de Baba Salé. Donc quand on a un environnement aussi riche, aussi tzaddik, aussi hassid, en principe, hein, surtout dans ces régions-là, on devient aussi soi-même tzaddik, etc. Je ne dis pas que c'est automatique, mais on va voir justement dans la première partie de la vie de Sidna Baba Salé. J'ai parlé avec mon beau-frère aussi, qui est donc c'est un descendant direct lui aussi de Sidna Baba Salé par sa maman, je dirais. Et donc, la première partie de Sidna Baba Salé, j'écourte un peu, je reviens, je me focalise un petit peu sur Sidna Baba Salé pour qu'on ait le temps un peu d'en parler, c'est la Avodat Hashem. Donc on va voir un élément entre parenthèses familial. Rabbi Sidna Baba Salé a perdu son père assez jeune, globalement un peu avant la Bar Mitzvah. Ce qui fait que l'image, on va voir qui va le pousser à devenir ce qu'il est, c'est celle de son frère. Tout le monde est d'accord avec ça, personne ne peut en discuter. Et Ateret Roshenu avait une Avodat Hashem très difficile. Ça veut dire, on va dire difficile, bien sûr, l'Avodat Hashem, elle est scalée. On peut Avodat Hashem, Besimha, Be'ava, Be'ir'a. Vous connaissez tous, bien sûr, Abraham, Sakhbi, Yaakov, les différentes Avodat Hashem. Mais ce qui caractérise Ateret Roshenu, il n'y a qu'à regarder ses livres, c'est cette rigueur et cette prishut et cette misirut nefesh, à tel point qu'on a dit, je ne sais pas combien de fois, mais Ateret Roshenu, vous savez ce qu'on appelle les afsakot, les longues afsakot, c'est les jeûnes. Quand un tzaddik jeûne depuis samedi soir jusqu'à vendredi, ça veut dire toute une semaine sans manger, sans boire. On a dit que à Teret Rosh Hashanah, je ne sais pas combien de hafsakot il a fait dans sa vie, énormément. Alors, j'ai apporté avec moi un livre, mais c'est la Teshuvah que j'ai laissé, mais c'est pas grave. Je veux dire, quand on voit un petit peu la progression des midot dans Mesilat Teshuvah, on arrive à la Kedusha, je crois que dans la famille Be'atzera, on va un peu plus loin. Ça veut dire, pas plus loin, ça veut dire, on arrive vraiment au résultat. Et ce résultat, c'est sur Ruach HaKodesh, etc. Donc je reviens maintenant sur Sinema Saleh. Sa Avodat Hashem au début était lui aussi, alors était calqué un petit peu sur son oncle. À tel point, vous savez que, avant la bar mitzvah, un vendredi, son frère, donc son grand frère, Atelet Oshenu, Rabbi David Zatzal, l'a rencontré dans le mikvé et il avait l'air très très pâle. Donc avant la bar mitzvah. Et il a compris que son frère commençait à l'imiter, c'est-à-dire lui aussi à jeûner pendant, puisque c'était vendredi, à jeûner toute la semaine. Alors il l'a pris, il lui a fait du moussa, il lui a dit, écoute, je t'interdis de faire ça avant l'âge de 25 ans. Alors que si le Mohamed Salah avait commencé déjà, on dit, depuis l'âge, même avant la bar mitzvah ou après la bar mitzvah, il était très jeune pour faire ce genre de avodat Hashem. Alors, quand on avance un petit peu dans la avodat Hashem de Sinema Saleh, on voit qu'il y a une messirut nefesh dans ce qu'on appelle la prishut et la kedusha. On raconte bien sûr que lorsque il allait dans une ville, il marchait, alors il fallait que son chaliah lui tienne la main. Il avait donc un voile dans des endroits où il y avait pas mal de gens qui passaient, d'hommes et de femmes, pour ne pas voir ce qu'il voulait pas voir. Donc ça, je veux dire, il n'avait pas de problème. L'Avodat Hashem, c'était avant tout. Lorsque, par exemple, en hiver, vous savez que dans cette région de Rissani, ça veut dire Tafilelt, il fait très froid en hiver et le seul mikvé qu'ils avaient là-bas, c'était une source. Et cette source était glacée. Il fallait que Sidam Saleh, pour rentrer, casse la glace avec ses pieds. Et souvent, son chaliah remarquait ce que lui ne sentait même pas, on peut dire, ne remarquait pas. C'est-à-dire que son pied était tout ensanglanté avec les blessures. En cassant de la glace, on se fait mal. Bon, alors, il y avait une kedusha spécifique. On a raconté... Je saute un petit peu dans l'histoire, mais volontairement, que par exemple à Paris, il y avait un certain moment, dans les années, je crois 80, même avant, 75, il y avait, même avant je crois, Rabbi Tzikel, qui se trouvait en même temps que Sinema Saleh à Paris. Alors quand ils rentraient au Mikvé, ils se sont rencontrés juste avant le Mikvé, alors... Rabbi Tzikel a dit, à toi, je veux dire, il rentrait sans fermer. C'est-à-dire, Sinema Saleh, quand il allait au mikvé, il était seul. Il fallait que personne ne soit avec lui. Il avait son chaliah, bien sûr, il savait très bien. Et il avait une mida de on appelle ça dans le jargon, je m'excuse du mot, de Mesilat Yesharim, de Nikiyut, c'est-à-dire une mida de Hassidut, comme ça, très, très approfondie, à tel point qu'il rentrait avec tout ça, j'ai là-bas, on va dire, ça, Gandoura plutôt, dans le mikvé. Et au dernier moment, quand il avait déjà relevé, il avait déjà quelques madrégotes, quelques marches dans l'eau, il relevait pour pouvoir se découvrir entièrement. Je veux dire, c'est une. Bon, ça, c'est l'Avodat Hashem du début. Souvent, il lui arrivait de, même en pleine. Je veux dire, en pleine année, comme ça, sans Hapsakot, de ne pas manger. Mais il interdisait à son chaliah. Vous savez ce que c'est, le chaliah, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec lui, qui lui apporte à manger, etc. Il interdit de dire ce qu'il faisait. Alors, ce qu'il faisait, souvent, on lui apportait, mon père, Al-Mashallah, m'a raconté, donc, ça se passait comme ça, il y avait une yeshiva, et lui était au-dessus. Lorsqu'on lui apportait à manger, il disait au chaliah, écoute, cette assiette, faisant ce que tu veux dans là, mais je t'interdis de, ça, il a dit après, je t'interdis de dire que tu m'as servi, que j'ai pas voulu manger, etc. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait le faire bitsinaout, c'est directement l'Avodat Hashem, c'est avec Hashem, j'ai pas besoin que les autres me voient. Vous savez, entre parenthèses, le Hida dit, toute mitzvah qui est faite directement, ça veut dire entre moi et Hashem, a beaucoup plus de valeur que si tout le monde le sait, à tel point que le Shulchan Aruch, vous savez qu'il dit que si quelqu'un se targue de vouloir jeûner, j'ai jeûné, etc., non seulement il n'a pas de récompense, mais Bar Minan, il a une punition, il a un neige. Bon, on est loin de là. Donc, on voit un petit peu cette Avodat Hashem qui est centrée sur la Prishut, sur la Kdusha. Bon, ça vient bien sûr du père, du grand-père, etc., qui ont insufflé cet amour, et surtout, comme je vous ai dit, du frère, Atelet Oshenou, qui était là, bien sûr, avec lui, beaucoup plus de temps, pour le seconder dans sa marche à suivre. On va parler maintenant, si vous voulez, à tel point, ça veut dire, cet Avodat Hashem était un petit peu Biprishut, quand tout le monde savait que lorsque Sinema Saleh venait à la Tfila, alors ça se passait comme ça. Il y avait, donc la synagogue, si vous voulez, était là. Il y avait un balcon, et un balcon, c'était même pas une hazara, il y avait une pièce. Et Sinema Saleh était là-bas, et il priait avec eux, mais ils n'étaient pas en même temps qu'eux. C'est-à-dire, les premières années, ils ne se mêlaient même pas. Ça veut dire, même dans la tefila, ça s'appelle tefila Betzibour quand même. Mais ils ne voulaient pas. Ça veut dire, il avait une tefila, quand il terminait la tefila, il tapait pour qu'on commence la Hazara. Alors, cette Avodat Hashem, on va le voir, elle va changer avec le temps. Bon, je saute sur les périodes, parce que je voudrais dire quand même un peu plus de choses. Sur la période historique, ça veut dire quand il a quitté. Alors, quand il a quitté le Maroc, il est venu en Israël, il est reparti encore au Maroc, il est revenu. Bon, je ne sais pas combien de fois moi-même, mais je sais qu'il y a eu pas mal de voyages aller-retour. Juste maintenant, je vais commencer à parler, on va revenir après, sur cette deuxième partie de la vie de Sinema Saleh. C'était tout à fait le contraire. C'était le Kiddush Hashem. Alors, c'est quoi Kiddush Hashem? Comment on peut faire Kiddush Hashem? Que, en voyant ce qu'a fait Sinema Saleh, le koah de la tefila, les chanot et tateva, ça veut dire la puissance et la force de la prière pour changer la nature. Ça, je vais vous donner juste un petit exemple pour commencer. C'est lorsque l'admour de Belz, Amisara Dov Belz, n'avait pas d'enfant pendant pas mal d'années. Alors, ils sont venus voir Sinema Saleh. Alors, il lui a raconté que sa femme, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, au bout, je ne sais pas de quel mois, Bar Minan, à toutes les femmes juives, que ça n'arrive jamais à personne, qu'elle, finalement, elle n'arrive pas à continuer sa grossesse. Alors, une fois, deux fois, trois fois, ils sont venus voir Sinema Saleh. Il lui dit, écoute, d'abord, je vois pas pourquoi tu viens me voir à moi, parce que tu as une descendance extraordinaire, tu as une ascendance, pardon, extraordinaire de tzadikim, etc. Moi, tu sais, je suis un petit Oved Hashem, etc. C'était toujours sa façon de répondre. Mais bon, tu me bénis, je te bénis. Alors, il a béni, et donc, il lui a dit, écoute, je te bénis, mais attaché, mais avertis-moi, dès que ta femme tombe enceinte, pour que je puisse un petit peu suivre et faire des bénédictions. Alors, cette fois-ci, donc, il y a une grossesse, mais on a oublié d'avertir Sinema Saleh. Et malheureusement, on va dire comme d'habitude, la grossesse n'arrivait pas à son... Bon, on est allé voir encore une fois Sinema Saleh. Je passe sur certains détails, hein, je vais un peu vite pour raconter un peu plus de choses avec l'aide d'Hachem. Et donc, cette fois-ci, il est venu s'excuser, il a dit qu'ils étaient en Suisse, etc., qu'il n'a pas pu, mais cette fois-ci, on va essayer d'être... Alors, figurez-vous que cette fois-ci, on a annoncé tout de suite la grossesse de Sinema Saleh, et on le mettait au courant, mois par mois. Et je pense qu'il faisait des tfilotes parallèlement. Cette fois-ci, il a eu un garçon, l'admour de Belz. Ce fils-là a eu, même pour être aussi, 10 garçons. Et là, je crois... Maintenant, pas plus de 42 ans. Et le fils, a 42 ans et il a déjà des nechadim, ça veut dire il a déjà des petits-fils. Ça, c'est la bracha du Sinema Saleh. Extraordinaire. Bon, si vous permettez, je vais vous raconter une petite histoire qui me touche personnellement. Et vous allez voir la force de Ben Salé, je veux dire, même pas à long terme, vous allez voir. J'étais à Paris, et donc j'avais un ami. Je ne vais pas donner le nom, je l'ai écrit pour me rappeler. Et cet ami-là, il était marié depuis 10 ans, au moins. Il n'avait pas d'enfant. Vraiment un type extraordinaire, qui aidait dans la choule à Paris, faisait Khlasatul Him, etc. Il m'invitait souvent. Un jour, je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne vas pas voir Sidon Salé? Va en vacances. Dans les années 78, 80, je pense. Bon. Alors, vous allez voir, moi, finalement, après, je ne l'ai plus revu. J'ai quitté Paris en 82. Et donc, je ne l'ai plus revu, mais j'ai entendu après mes beaux-frères m'ont dit que c'est devenu un ami à eux. La première question que j'ai demandé, c'était, est-ce qu'il avait des enfants ou il n'avait pas d'enfants? On m'a dit oui. Elle a eu, ben pour un tu sais, pas mal de garçons. Alors, je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, je lui ai dit, va le voir, etc. Alors, l'histoire est comme ça. Il est allé voir Sidon Salé la première fois. Donc, il est allé à Netivot et on lui dit qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas recevoir. Il y avait ma tante à aller à Chalom là-bas, donc la sœur à mon père. Elle lui a dit, je viens de la part de votre neveu, et voilà, et voilà. Bon, elle lui a dit, écoute, reviens une autre fois, je vais essayer de le réveiller, etc., de voir s'il peut te recevoir. Il ne pouvait pas le recevoir. La deuxième fois, il repart. On lui dit de revenir. Il lui dit, est-ce que Sidon Salé est là ou il n'est pas là? Est-ce qu'il peut me recevoir? Elle dit non, il est fatigué, il ne peut pas te recevoir. Bon, il dit, écoutez, il m'a dit, moi je lui aurais dit, qu'il fait des brachot sur l'eau, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, ma tante? Elle a, donc, un moment où elle a trouvé Sidon Salé qui était en forme, elle lui a dit, voilà, tu sais, etc., on a envoyé, etc., telle personne, il a laissé son nom, il n'a pas d'enfant, etc. Elle a dit, pas de problème, je vais bénir l'eau. Il est revenu après, encore une fois, Sidon Salé, elle n'a pas pu le recevoir. Mais il a reçu la bouteille. Ça a fait son effet. Mais pour être safe, sa femme est tombée enceinte. Je sais pas, il a plusieurs garçons. Mais je veux dire, lui, à mon avis, il n'y croyait même plus. Voilà un miracle sans voir, je veux dire sans recevoir. Mais il a reçu la bénédiction avec la bouteille d'eau. Mon père, absolument. Il est tombé malade des yeux. Il avait fait donc une opération en urgence. Et donc, on était très inquiets. Enfin, mon frère aîné, Badari, était très inquiet. Ils ont envoyé un télégramme à Sidon Salé.
C'était où? C'était en France, à l'époque.
C'était en France. Et Sidon Salé était en Israël. Et j'ai fait le calcul tout à l'heure. Donc, Sidon Salé, il avait à peu près 77 ans. Donc, il n'était pas tout à fait jeune, on va dire. Un peu, s'attendait. Non, c'est ça, 77 ans. Il avait 77 ans et donc il a reçu le télégramme. Ma tante lui a dit voilà et voilà. Le lendemain, il est allé à Méron. Il a prié sur la tombe de.
Définitive, tout au sud.
Ah ouais, tout au sud, il a été lui-même prier, etc. Et sur le chemin, tout ça c'est écrit dans la lettre. Il y a une lettre. Je ne l'ai pas apportée parce qu'elles ne sont pas. Je les avais pas sur moi. Et donc il a dit que sur le chemin du retour, il est passé chez Rabbi Haïm ben Attar. Et à Rabbi Haïm ben Attar, il y a une goutte, une larme, qui est tombée des yeux. Il a compris que cette fille-là était mécoubelette. Il écrit ça. Il écrit quand j'ai été, etc. Après, je me suis prosterné devant la tombe de, etc. Et une larme est tombée de mes yeux et j'ai compris que quand je me retrouve, voilà. Baruch Hashem, j'étais déjà moins anxieux. J'espérais beaucoup que les tefillot de Bezrat Hashem allaient être exaucés. Donc ça c'est la force. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire?
Mon père a été guéri.
Il a été guéri, bien sûr. Il avait un décollement de rétine, le Takum Parmisara, pour personne. Et donc c'est une opération très délicate. Il fallait l'amener, à l'époque, mon père était rabbin, à Pau. Et il fallait l'amener de Pau jusqu'à Lyon en ambulance couchée pour ça veut dire pour avoir le maximum de de succès à l'opération. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas si tu le connais. Ça concerne Yeshiva. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Yeshiva Bnei Brak qui s'appelle Gaon Yaakov, du Rafedida. Vous connaissez? Non. Vous connaissez? Le Rafedida, un ancien d'Exleben, je connais Exleben. Un ancien d'Exleben, et quand il est venu ici, il a voulu donc faire une Yeshiva. Et vous savez qu'avant de faire les fondations, il y a des examens qu'on demande, ça veut dire un jour, il faut absolument connaître la qualité de la terre. On a fait ces examens-là, on lui a dit impossible. Impossible parce que la terre n'est pas apte à recevoir des fondations qui vont avoir un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Alors là, il s'est dit, on lui a dit, tu sais, il y a un sadique, un étivote, va le voir. Très bien. Alors il est allé le voir, etc. Ils ont parlé, il lui a dit, pas de problème, je vais te bénir, donne-moi une bouteille d'eau, on lui a donné une bouteille d'eau, je vais faire. Il a béni, il lui a dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre de la terre, tu vas mélanger avec cette eau, et tu vas les mettre aux quatre coins du périmètre de ce lieu où doit être construit la yeshiva. Et on va voir, puisque on doit faire encore d'autres examens. Ben, vous connaissez bien sûr la suite. La suite, cette yeshiva existe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après que le Rafedida fait lui-même ça? Je crois que j'ai entendu ça ou de mon père, Azatzal, ou bien de lui-même, du Rafedida lui-même, que les examens ont donné positif. Ça veut dire que la terre était apte à recevoir des fondations et donc à construire. Grâce à qui?
Un peu d'eau.
Un peu d'eau de... Bon, il y a encore autre chose à raconter.
Est-ce qu'il est parti
faire
à Paris?
Moi, je crois que il venait et repartait des fois souvent, c'est vrai, sans... Bon, il avait une fille d'abord là-bas. Elle avait une fille, la Rabbanit Avigael, Boussou, qui habitait là-bas. Bon, je pense qu'il venait insuffler un peu de Rouhaniyot, parce que de spiritualité, si vous voyez comment était Paris, pour ceux qui ont connu Paris, à cette époque où il venait, si on voit Paris maintenant, ça n'a rien à voir. Comme disait Rav Gershon, lui-même, Rav Gershon Kahen, Zatzal de la Yeshiva d'Exema, il y a eu une explosion de la spiritualité à Paris, jusqu'à maintenant. Ben Porat Yosef, chaque mois, vous voyez des nouvelles affiches, qu'un nouveau restaurant cachère, une nouvelle pizzeria cachère, etc. Ça n'existait pas. Il y avait, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme spiritualité? Je vais vous dire, il y avait un Melave Malka le samedi soir, il y avait le Rav Westheim, à la mission pour ceux qui ont connu, le père du Rav Westheim qui s'occupe de la cachoute. Donc, qui avait un rôle, il y avait le Rav Frankfurter, le Rav Munk Zatzal, la stricte observance, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et le Rav Rotenberg, qui commençait un petit peu avec la rue pavée. Mais c'était, par rapport à maintenant, c'était rien du tout. C'était une goutte d'huile dans la mer, on va dire. Donc, ça, c'était. Encore un autre maassé avec un. Je ne dirais pas les noms, mais. Deux personnes qui sont allées voir Sidi Abbas Saleh, des Talmid Hachamim. Ils étaient deux et on leur a servi des fruits. On leur a servi, vous savez que la Khnasat Urhim, ça c'est la deuxième partie de la Avodat Hashem de Sidi Abbas Saleh, c'était la Khnasat Urhim d'avoir des invités, alors qu'au début de la première tranche de sa vie, c'était au contraire d'être seul. Et cette. Ce Talmid Hacham, un des deux Talmid Hacham, qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qu'il prenait, tout ce qu'on lui posait à table, il le prenait et le mettait dans la poche. C'est-à-dire, il avait peur. Il disait, vous connaissez cette histoire peut-être, il disait, peut-être, les Troumot et les Maasrot, on ne sait jamais, il y a tellement de monde qui passe ici. Alors, bon, je suis Mahmir, et vous savez ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Comme ça. Alors, à un certain moment, il sent que la poche commence à chauffer. Et un peu, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et à un certain moment, la poche commençait à brûler. jusqu'à ce qu'il était obligé devant tout le monde enlever cette. Alors, c'est dans ma salle qu'il se retourne, il savait tout. Lui, il dit, En botkin mina mizbeah ul ma'ala. Ça veut dire, quand quelque chose arrive au mizbeah, c'est fini. Ça veut dire, on a déjà tout vérifié.
On vérifie. Tout ce qui a à voir avec l'hôtel au temple de Jérusalem, il n'y a plus besoin de vérifier. C'est clair que ça a été vérifié.
C'est-à-dire, tout a été déjà vérifié auparavant. Ça veut dire, si on le pose ici à table, ça veut dire, bien sûr, ça a été vérifié.
Cette table est comparée donc à l'hôtel de Jérusalem.
Ça m'a rappelé encore une petite histoire. C'est qu'une fois, Sidam Saler Al-Hasham n'a pas voulu manger de la dafina. Ça, c'était un étivote. On lui a proposé donc de manger, il a dit non. Personne ne savait. Alors, après, il a demandé de faire une petite enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a expliqué que la plaque a eu un problème et on était obligé de prendre le hamim et d'amener sur une autre plaque. Bon, selon la halakha, il n'y a pas. Si c'est mevouchal, kol sochol, si c'est entièrement cuit, dans certains cas, si c'est tout de suite après, le rabbi va dire si vous êtes ça le permet, etc. Comme était très mahmir, on va revenir un peu maintenant sur le Ben Ish Hai, comme il était très mahmir à la limite, comme le Ben Ish Hai, puisque mon père m'a raconté à la Vachon que tous les samedis soirs, après l'Abdallah, bien sûr, alors ça dépend si c'était au Maroc ou ici, au Maroc qui recevait des personnes, etc., mais après, l'étude du Ben Ish Hai était quelque chose de fixe, il fallait qu'il étudie toute la halakhot de Ben Ish Hai, et donc, bien sûr, de la semaine, première année et deuxième année. Quand il a commencé à dire que c'était un peu difficile pour lui, il appelait un Talmid Hacham qui lui lisait le samedi soir les halakhot de Ben Ish Hai, tous les samedis soirs. Et dans un maasé qui a raconté avec le Rav, vous connaissez le Rav Yaakov Moutsafi, à la Machonom, c'est n'a rien à voir avec Ben Sion. Le Rav Yaakov Moutsafi, c'était Eda Haredit Sfaradit, Hazak Baruch. Donc ça veut dire les orthodoxes Sfarad. Lorsque la Aliya du Maroc commençait à grandir en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié. Alors le Rav Yaakov Moutsafi, c'était un peu le responsable. Il s'est chargé d'augmenter le nombre de Talmud de Torah. Et à un certain moment, ils ont trouvé un Talmud Torah et il manquait un enseignant. Et j'ai un oncle, Zecher Tzadik Vracha, le Rav Yosef Amsalem, le plus jeune de la famille, qui avait fait sa Aliya. D'ailleurs, il est venu en même temps que Sidam Amsalem. Il l'a amené. Et mon oncle s'est proposé. Sidam Amsalem, bien c'est lui qui lui a dit, viens, c'est toi qui m'as enseigné. Rabbi Yaakov Moutsafi lui a dit, ton beau-frère, il est célibataire. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, nous, on a une règle que les célibataires. Sidam Amsalem lui a dit, c'est pas un problème. D'ici un mois, je vais le marier. Et ça s'est passé comme ça. Il a fait un shidour tout de suite. Il s'est marié. Et donc, il a commencé à enseigner dans un des Talmud des Torah de, vous voyez, la Zrizut de Sidam Amsalem. Extraordinaire. Alors, maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui. J'ai encore un peu de temps, oui. Ouais. Alors, qui va vous surprendre. Mais il m'a été raconté par un des Shamashim, c'est-à-dire une des personnes qui est tout le temps avec Sidam Amsalem, c'était dans l'année 73. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et à un certain moment, il y a eu un avion de la Sabena qui a été détourné sur Israël. Et après, c'était un mercredi. D'ailleurs, il m'a rappelé que c'était un mercredi. Donc, le Shamash, ce Shamash-là, a allé à travailler à Ashkelon. Donc, au début de la journée, il venait voir Sidam Amsalem et il revenait l'après-midi pour s'occuper de lui le soir. À l'époque, c'était pas comme les dernières années. Je veux dire, où il y avait beaucoup de monde qui venait du matin au soir, etc. Le Shamash n'a rien dit à Sidam Amsalem. Il n'a pas parlé. À l'époque, il y avait un gouvernement, donc le ministre de la Défense, c'était Moshe Dayan. Le dimanche matin, il vient voir Sidam Amsalem et Sidam Amsalem remarque dans son visage, avant d'aller au travail, ce Shamash, hein, il remarque que son visage n'était pas on va dire rayonnant de joie. Mais dit, qu'est-ce qui se passe en hébreu? Il dit panecha hamutzim, c'est-à-dire tu es un peu aigri par quelque chose. Il lui dit, Rabbi, j'ai pas voulu te dire pour ne pas te faire de peine, mais voilà et voilà. Depuis mercredi, il y a un avion qui est bloqué avec des passagers juifs, etc. Et on ne sait pas, je veux dire, les autorités israéliennes n'ont pas encore. Bon, il a dit, écoute, aujourd'hui, très bien, alors si c'est comme ça, je vais m'enfermer maintenant. Il est allé s'enfermer, que personne ne vienne avertir, que personne ne me dérange toute la journée. Bon, il est allé s'enfermer tout seul, je crois qu'il n'a même pas, c'était juste après la tefila, hein. Donc il n'a même pas pris son petit déjeuner, il est allé dans sa pièce. Quand il est revenu, le chamage est revenu, il m'a raconté, et il le voit, c'est là, vous savez, d'un air gai, etc. Il lui dit, va apporter la bouteille d'arak, et viens, on va déjà faire les haïm, toi et moi. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lui-même ne savait pas. Et il lui dit, alors justement, ça c'est juste on va dire un prélude, c'est un début. Et ce soir, tu vas inviter telle et telle personne pour faire une saouda, de Hodaya Kadosh Baruch.
De remerciement.
Est-ce que Sina Mossadé avait la radio? Barminan, ni radio, ni rien du tout. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Les forces israéliennes ont donné l'assaut, et Baruch Hashem, l'avion donc a pu être délivré de ces marchemins, de ces terroristes, et à moindre frais. Et Baruch Hashem, alors le soir, il a écouté exactement. Alors Sina Mossadé savait tout. Ça veut dire, il a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, etc. Bon, l'histoire n'est pas terminée. Je ne sais pas comment, je veux dire, les bruits sont arrivés, etc. Mais ce chamache-là reçoit un coup de téléphone du ministre de la Défense. On lui a dit, écoute, on a entendu qu'un tzadik, etc., dans votre région, a prié, etc. Il a dit, oui, bien sûr, ce jour-là, il a tout raconté. Ce genre, je veux dire, bitmimout, on va dire, avec d'une façon naturelle. Il a raconté, il a dit, voilà, je lui ai dit, puis ça lui a fait tellement de peine, il m'a dit, je ne veux recevoir personne, je vais aller m'enfermer dans la chambre. Et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il était, alors je me suis dit, certainement, et là, il a dû prier, il a dû faire quelque chose. Très bien, il a dit, écoutez, il y a le ministre de la Défense qui veut venir voir Baba Saleh pour le remercier. Comme eux-mêmes, je pense que au ministère de la Défense, ils ne voulaient pas que ça s'ébruite, que ça soit vraiment très, très, en petit comité, très restreint. Il est venu, il m'a dit, à 9h du soir.
Moshe Dayan
en personne est venu. Il a dit, je veux voir le rab. Où est-ce qu'il est? Très bien. Alors le chamash, il dit, tu sais, il y a Moshe Dayan qui est venu te voir. Moshe Dayan, il savait, hein. J'étais au courant de tout, c'est dans la Ah, très bien, bon. Alors, il a commencé à lui parler, il a dit merci pour vos prières, etc. etc. Bon, il est parti, il dit moi, j'ai rien fait, c'est un cadeau, je vois le roi qui a tout fait, etc. Moshe Dayan repart, il appelle le chamash. Il lui dit dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moshe Dayan est venu me voir? Il dit je te dis franchement, on m'a téléphoné, et voilà, je lui ai raconté que. Ce jour-là, j'ai dit la vérité. Il lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de parler et de dire ce que je fais en avant, pour dire que c'est grâce à moi que Hasbi Shalom, moi je fais rien du tout, je suis un homme comme les autres, etc. Et à telle preuve, je vais vous raconter ce que moi-même...
Mais pourquoi Moshe Dayan, il a appelé?
Ils ont entendu ça. Ils ont entendu qu'un tzadik, ça faisait du bruit de bouche à oreille, qu'un tzadik a prié dans le sud. Alors ils sont allés voir qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est ce tzadik, etc. Ils étaient eux-mêmes... Et Baruch Hashem, ce succès, c'était pas naturel. Ce succès qu'ils ont eu, naturel, sans à moindre frais. Et moi, je vais vous raconter maintenant ce que j'ai entendu moi-même. Je crois que c'était le mois de Baba Salé. J'étais là, ce qu'a raconté son gendre, Rabbi David Yehudayor Zatzal, qui a écrit d'ailleurs deux livres sur Sina Baba Salé. Un livre en deux tomes. Alors, il disait que Souvent, il venait voir, il était très proche, je crois que c'était après ses enfants, l'homme le plus proche de Saddam Hussein, c'était son gendre, Rabbi David Yehuda Yosef. C'est simple. Et il a raconté, il a dit, vous savez, moi, souvent, j'étais avec Baba Saleh. Maintenant, il raconte dans le mois de Baba Saleh. Il disait que souvent, Saddam Hussein demandait d'arrêter. Il y avait des gens qui venaient donc demander des brachot. Il arrêtait. Il dit, arrête de faire entrer des gens. Et Saddam Hussein explosait en pleurs. Et il dit, pourquoi ils viennent me voir? Ça, je l'ai entendu moi-même. Mais qui suis-je, moi? Mais les gens, ils mettent en moi tout le mais je ne suis rien du tout. Je suis un juif normal. Pourquoi me donner tout ce cabot? Je ne veux pas. Il disait, oh, il a l'éota boucha. Vous savez, un petit jeu de mots. Boussa, en arabe, c'est embrasser la main. C'est une bise, on va dire en français. Et boucha, vous savez ce que c'est, là? C'est la honte. Alors il disait, parce que les gens venaient lui embrasser la main, il dit, oh il a l'éota boucha, boussa, oh il a l'éota klima. Ça veut dire, malheur à lui, Barminan, s'il prend trop d'honneur dans ce monde-là, parce que chacun lui embrasse. Regardez à ce point, la tzidkou de cet homme. Et il pleurait. Et il dit, je demande à Hachem, ça c'est Rabbi David qui l'a raconté, je l'ai entendu, votre serviteur l'a entendu lui-même. L'oncle de mon père, je suis obligé de dire ça parce que était un grand tzaddik. Il s'appelait, il vivait à Figig, après à Oran. C'était très connu. Et après à Lyon. Et d'ailleurs, quand ils ont fait un bédine à certain moment à Lyon, après l'arrivage des rapatriés d'Algérie, il faisait partie du bédine. Un grand tzaddik. Et bon, vous savez, les tzaddikim, ils sont plutôt réservés un petit peu dans la famille Amsalem, un petit peu réservés. Et donc, à tel point, il était sadique qu'il faisait ce qu'on appelle She'elat Halom. Ça veut dire She'elat Halom, il y avait des malades de tout le monde entier qui venaient jusqu'à la ville de Figueres, après il venait à Oran, et lui, il savait, ça veut dire que ça veut dire She'elat Halom, il demandait est-ce que cette personne a une chance de vivre avec ce. Avec un camilla que je vais faire, oui ou non. Alors quand il lui disait oui, il le faisait. Si on lui disait non, il faisait rien du tout. Lorsque
en rêve, c'est ça. Tu vas être à l'homme en rêve.
Oui. Ça veut dire dans la nuit.
Oui,
on lui répondait. Et il avait une réputation mondiale. Et quand Sidna Baba Saleh était arrivé là-bas dans la région, il était tellement content. Je veux dire, on voyait que deux tzaddikim qui arrive à percevoir, disons, la tzidkout l'un de l'autre, et il montait sur la table pour danser. Il faut le voir, j'ai pas de photo, dommage, vous aurez montré, mais vous voyez lui-même, il avait un châle, donc sur les, comme s'il avait un salé, il était habillé de la même façon, il étudiait tout le temps, le Zohar, etc. C'était un Talmid Hacham en même temps, puisqu'il était en même temps Shohet, et ça, à l'époque, le Talmid Hacham était, comme vous savez, c'est marqué dans la Gemara, t'es Shohet, Mohet, mon père Zatzan était en même temps Shohet, Mohet, Talmid Hacham, etc. Il fallait être entier pour diriger une communauté. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de tout le monde si j'ai raconté un minimum, du minimum qu'on peut raconter, mais on peut rester là jusqu'à demain matin, et avec plaisir, quand il voudra. Zat Hacham. Alors j'espère que, non, juste la matara, ça veut dire le but d'entendre tous ces marasim et de la avodat Hashem du tzaddik, c'est que nous-mêmes, on apprend, bien sûr, on est loin de pouvoir lui ressembler, il faut bien savoir ça, on est loin parce que ça allait dans sa vie, je discute avec beaucoup de Talmid Hachamim, c'est incroyable, comme s'il a vécu 300, 400 ans, parce que, comme je vous ai raconté au début, il est allé en Israël, j'ai oublié de dire ça, il est allé voir le Hazon Ish. Il lui a dit, écoute, moi, à Tafilelt, nous sommes les hommes à part, les femmes à part. Vous savez qu'au début, dans la première partie de la prishut, il ne mangeait même pas avec la famille, c'est-à-dire il mangeait seul. Et même le Shabbat, très très peu, ça veut dire sa présence était à peine perceptible. à la fin de sa vie, on a dit que l'avodat Hashem c'était beaucoup plus Be'ahava, etc. Mais comment peut-on caractériser la vie de Sidna Ben Salé, c'était Ahavat Israël. Et d'ailleurs, je crois que le peuple d'Israël, Baruch Hashem, lui rend actuellement, parce que vous allez à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand, n'importe quel moment de l'année, vous allez trouver toujours du monde dans le temple de Sidna Ben Salé. Je ne crois pas que dans la ville de Jérusalem et ailleurs, dans toutes les villes, on voit des annonces d'autobus qui vont en direction de Netivot. Tout ça pour sa mémoire. J'ai oublié le plus important, c'est que pendant toute sa vie, et une seule pensée était avec lui, c'était le Mashiach. Je pensais qu'il vivait avec le Mashiach. Il le voyait apparemment de son temps. Tout le monde, d'ailleurs, je ne vous cache pas que nous, quand on nous a annoncé sa disparition, on n'a pas cru parce qu'il était tellement confiant que le Mashiach va venir de son temps, et ça je crois que c'est le plus important. Il vivait le Mashiach, chaque fois qu'il était content, il chantait une chanson, Yavo Mashiachinu Bekarov, c'est une chanson connue dans la région, et donc il vivait avec le Mashiach jusqu'à que malheureusement son fils Sidna Ben Salé, il est niftar à peu près 6 mois avant lui, et donc Certains disent que c'était lui le Mashiach qui devait arriver. J'ai oublié de dire, bien sûr, que les relations entre les Gdolé Israël, tous les Gdolé Israël, en commençant, j'ai parlé tout à l'heure avec sa fille, mais en même temps, il est allé voir le Hazonish pour lui demander est-ce qu'il doit rester en Israël, parce qu'il voit qu'il y a trop de mélange entre le bien et le mal. Il dit que là-bas, à Tafilet, on n'est que... Je veux dire, c'est bien séparé. Donc, non, le Hazonish lui a dit de rester là, au contraire, que ses frères ont besoin de lui. Quand il avait 30 ans, il est venu en Israël. Et il est allé voir le Rav Alfandari. Ça, c'est quelque chose que mon père Zatzal a raconté souvent. Quand il a vu le Rav Alfandari, ils ont parlé de Torah, etc. Et le Rav Alfandari, qui était déjà vieux, il a vécu jusqu'à 100, plus de 100, combien ?
112 ans.
112 ans. Donc, il était déjà assez âgé. Quand il l'a vu, c'est dans la salle de loin, voilà, qui rentre avec les Talmid Hakhamim, il s'est levé. C'est dans la salle, à l'époque, c'était la première fois qu'il venait en Israël. Il avait 30 ans. Il est venu pour imprimer les livres de son frère et certains livres de Rabbi encore récemment. Et quand il est parti, bon, ils se sont bénis, etc. Chacun a béni l'autre et Sidna Ben Salé lui dit non, c'est toi qui vas me bénir. Rabbi Alfandari, non, c'est toi. Finalement, il y a eu un échange de bénédictions. Et lorsqu'il est parti, les Talmidim du Rabbi Alfandari lui disent excuse-moi, tu n'as pas l'habitude de te lever pour. Il est plus jeune que toi, même pour être sept. Il lui dit je vois en lui que c'est le futur Gadol Ador. Alors je me suis levé, j'ai vu déjà en lui tout son potentiel. Voilà ce qu'on peut dire sur Sidna Ben Salé. Skoula misvot.
Skoula
tagana, avec plaisir.